Chapitre 21. L'attaque. Récit continué par Jim. Dès que Silver a disparu, le capitaine, qui l'avait surveillé de près, s'est tourné vers l'intérieur du fortin. Il n'y a trouvé personne à son poste, à l'exception de Gray. Pour la première fois, nous l'avons vu en colère. « À vos postes » a-t-il rugi. Et tandis que nous reprenions piteusement nos places, « Gray » a-t-il ajouté, « je noterai votre nom dans le livre de bord. Vous êtes tenu à votre devoir en marin. Monsieur Trelawney, vous me surprenez beaucoup. Et vous, docteur, je sais que vous avez porté l'uniforme du roi. Et c'est ainsi que vous avez servi à Fontenoy. Vous auriez mieux fait de rester couché. » Les hommes de garde étaient tous revenus à leur meurtrière, et les autres s'activaient à charger les mousquets de réserve. Tout le monde était rouge, et vous pouvez en être sûr, dans ses petits souliers, comme on dit. Le capitaine a regardé faire en silence. « Messieurs, a-t-il dit au bout d'un moment, j'ai envoyé à Silver une bordée par le travers. J'ai tiré à boulet rouge intentionnellement. Avant qu'une heure ait passé, nous serons attaqués. Ils sont plus nombreux, pas besoin de le dire, mais nous nous battons à couvert. Et il y a encore un instant, j'aurais ajouté, avec discipline. Pourtant, je n'en doute pas. Nous pouvons leur donner la raclée, si vous y mettez du vôtre. » Sur quoi il a fait sa ronde, et il a constaté, comme il l'a dit, que tout était prêt. Les deux petits côtés du fortin, à l'est et à l'ouest, comportaient seulement deux ouvertures. Au sud, où se trouvait le porche, il y en avait encore deux. Et au nord, cinq. Nous disposions d'une vingtaine de mousquets pour nous sept. Nous avions fait quatre piles du bois de chauffage, qui formaient des tables, en quelque sorte, une au milieu de chaque côté. Sur ces tables, des munitions et quatre mousquets, chargés, étaient à portée de main des défenseurs. Les sabres étaient rangés au centre de la pièce. « Portez le feu dehors !» a dit le capitaine. « La fraîcheur du matin est passée, et nous ne devons pas avoir de fumée dans les yeux. » Mr. Trelawney est sorti avec le panier en fer où nous avions fait le feu. Il a éteint les braises dans le sable. « Hawkins n'a pas encore pris son petit déjeuner, » a continué le capitaine. « Hawkins, serre-toi et regagne ton poste pour manger. Presse-toi, mon garçon. Tu auras besoin de force avant que tout soit fini. Hunter, servez-vous une tournée d'eau-de-vie. Servez donc une tournée d'eau-de-vie à tout le monde. » Et pendant que cela se faisait, il a complété son plan de défense dans sa tête. « Docteur, a-t-il repris, vous garderez la porte. Veillez à ne pas vous exposer. Restez à couvert et tirez à travers le porche. Hunter, prenez les côtés est. Joyce, vous vous mettez à l'ouest, mon garçon. Monsieur Trelawney, vous êtes le meilleur tireur. Avec Gray, prenez le nord et les cinq meurtrières. C'est là qu'est le danger. S'ils arrivaient jusque-là pour nous tirer dessus par nos propres sabords, ça commencerait à sentir mauvais. Hawkins, ni toi ni moi ne sommes mon tireur. Nous resterons à portée pour recharger et prêter main forte. » Comme l'avait dit le capitaine, la fraîcheur était passée. Aussitôt que le soleil a atteint le sommet des arbres qui nous entouraient, il est tombé avec force sur la clairière et a eu vite fait de dissiper la brume. Bientôt le sable est devenu brûlant. La résine des rondins du fortin a commencé à fondre. On a mis bas, vestes et manteaux. Les cols se sont ouverts. Les manches se sont retroussées jusqu'à l'épaule. Nous sommes demeurés là, chacun à son poste, à transpirer à cause de la canicule et de l'anxiété. Une heure a passé. « Qu'ils aillent se faire pendre !» a dit le capitaine. « On s'ennuie, comme par calme plat. Gray, sifflez le vent !» Juste à ce moment-là, sont venues les premières nouvelles de l'attaque. « S'il vous plaît, monsieur, a dit Joyce, si je vois quelqu'un, dois-je faire feu ?»« C'est ce que je vous ai dit !» a crié le capitaine. « Merci, monsieur, a répondu Joyce avec la même civilité tranquille. » Il ne s'est rien passé d'un moment, mais la remarque nous a fait tendre l'oreille et plisser les yeux dans un regain d'attention. Les tireurs tenaient leurs armes prêtes. Le capitaine, debout au milieu de nous, avait les lèvres serrées et la mine soucieuse. Quelques secondes ont encore passé, puis brusquement, Joyce a épaulé son mousquet et fait feu. La détonation s'était à peine tue que plusieurs autres lui ont répondu depuis l'extérieur. Elles sont venues de tous les côtés de la palissade, en formant un chapelet plutôt qu'une salve, comme des oies à la file. Plusieurs balles ont touché le bâtiment, mais aucune n'a atteint l'intérieur. Quand la fumée s'est dissipée, la petite forteresse et les bois alentour ont semblé aussi calmes et aussi déserts qu'avant. Pas un rameau ne bougeait, pas un reflet sur un canon de mousquet ne trahissait la présence d'ennemis. « Avez-vous touché votre homme ?» a demandé le capitaine. « Non, monsieur, a répondu Joyce. Je crois que non. » À part mouche, « le mieux à faire est encore de dire la vérité, » a marmonné le capitaine. « Charge ton arme, Hawkins. Combien diriez-vous qu'ils étaient de votre côté, docteur ?» Je le sais au juste, a dit le docteur Livesey. Trois coups de feu ont été tirés de ce côté-ci. J'ai vu trois éclairs. Deux qui étaient voisins l'un de l'autre et un dernier parti plus vers l'ouest. Trois, a répété le capitaine. Et combien de votre côté, monsieur Trelawney? La réponse a été moins facile. Il en était venu un bon nombre de ce côté-là. Sept d'après les comptes du chevalier, huit ou neuf au dire de Gray. À l'ouest et à l'est, un seul coup de feu avait été tiré. Il devenait donc clair que l'attaque serait menée depuis le nord et que sur les autres côtés, nous n'aurions à souffrir que des simulacres d'hostilité. Mais le capitaine Smollett n'a pas voulu modifier son dispositif. Si les mutins parvenaient à franchir la palissade, a-t-il argumenté, ils pourraient s'emparer des meurtrières non protégées et nous abattraient comme des rats dans notre forteresse. Ils ne nous ont guère laissé de répit pour y penser. Avec de grands hurrahs, un petit nuage de pirates a soudain surgi des bois du côté du nord et a couru droit sur le fortin. Au même moment, de nouveaux tirs ont éclaté dans le sous-bois et une balle, qui est entrée par la porte en sifflant, a brisé le mousquet du docteur. Les assaillants ont sauté la palissade avec autant d'agilité que des singes. Le chevalier et Gray ont tiré à deux reprises. Trois hommes sont tombés, un à l'intérieur de l'enclos, deux à l'extérieur. Mais visiblement, l'un de ces derniers a eu peur, plutôt qu'il n'a été blessé. Il s'est relevé aussitôt pour disparaître entre les arbres. Deux avaient mordu la poussière, un avait fui, et quatre avaient pris pied à l'intérieur de nos défenses. En même temps, depuis le sous-bois, sept ou huit autres, qui à l'évidence disposaient chacun de plusieurs mousquets, gardaient la baraque en rondin sous un feu aussi nourri qu'inefficace. Les quatre attaquants courut droit devant eux vers le fortin en criant, tandis que leurs complices, depuis le couvert des arbres, les encourageaient en criant aussi. Plusieurs coups ont bien été tirés, mais à cause de la précipitation des tireurs, pas un seul n'a semblé faire mouche. En un clin d'œil, les quatre pirates ont escaladé la butte et nous sont tombés dessus. La tête de Job Anderson, le premier maître, est apparue à la meurtrière du milieu. « Tout le monde à l'abordage » a-t-il rugi d'une voix de tonnerre. Au même moment, un autre pirate a saisi le mousquet de Hunter par le canon, le lui a arraché des mains, l'a tiré à lui et d'un coup terrible a expédié le malheureux au sol, sans connaissance. En même temps, un autre a fait le tour du bâtiment, en courant, sans être touché, puis il est apparu brusquement à la porte et s'est jeté sur le docteur avec son sabre d'abordage. Notre situation s'était complètement inversée. Un peu plus tôt, nous tirions à couvert sur un ennemi exposé. À présent, c'était nous qui étions à découvert et incapables de rendre les coups. La bâtisse en rondin était pleine de fumée, ce qui nous offrait une sûreté relative. Il y avait les cris et le désordre, les éclairs et les détonations des pistolets, ainsi qu'un grand gémissement qui a résonné à mes oreilles. « Dehors, mes amis, sortons et combattons-les à découvert. Au sabre !» a crié le capitaine. J'ai saisi un sabre dans la pile. Quelqu'un en a pris un autre au même moment et m'a fait une coupure sur les doigts que j'ai à peine sentie. J'ai franchi la porte en courant pour me retrouver dans la vive clarté du soleil. Quelqu'un était juste derrière moi, je ne savais pas qui. Le docteur poursuivit son assaillant vers le bas de la colline. Au moment où je l'ai aperçu, il l'a rattrapé, a rompu sa garde et l'a couché sur le dos avec une grande blessure en travers du visage. « Faites le tour du fortin !» a crié le capitaine, dont la voix, je l'ai entendue malgré le tohu-bohu, était changée. Machinalement, j'ai obéi. J'ai pris vers l'est et brandissant mon sabre, j'ai tourné le coin du fortin. Tout de suite après, je me suis trouvé face à Anderson. Il a poussé un rugissement et son sabre courbe s'est dressé au-dessus de ma tête, étincelant au soleil. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Le coup était encore en suspens, que j'avais fait un bond sur le côté. Mon pied a perdu son appui dans le sable mou et je me suis mise à rouler le long de la pente. Au moment où j'ai franchi la porte, les autres mutins escaladaient la palissade pour en finir avec nous. Un homme coiffé d'un bonnet rouge, un coutelas entre les dents, avait déjà une jambe de l'autre côté. À vrai dire, tout s'est déroulé si vite que quand je me suis remis sur pied, nous en étions au même point. Le pirate au bonnet rouge était toujours à mi-chemin, un autre passait la tête au-dessus de la palissade. Et pourtant, ce bref instant avait suffi pour que la bataille s'achève et que la victoire soit nôtre. Gray, qui me suivait de près, avait frappé à mort le gros premier maître, sans lui laisser le temps de reprendre l'équilibre après qu'il m'avait raté. Un autre avait été abattu à une meurtrière au moment où il allait tirer dans le fortin. Il agonisait, son pistolet encore fumant à la main. Un troisième, je l'avais vu, avait été dépêché par le docteur. Des quatre qui avaient franchi la palissade, un seul n'avait pas eu son compte. Il avait abandonné son sabre sur le champ de bataille et était en train d'escalader la palissade dans l'autre sens, la peur de la mort sur lui. « Feu ! Feu dans le fortin !» a crié le capitaine. « Et vous les gars, revenez vite à couvert !» Ses propos sont restés sans effet. Personne n'a tiré et le quatrième assaillant a pu s'échapper et disparaître avec les autres dans les bois. En 3 secondes, il n'est plus rien resté de ce furieux assaut, sauf les 5 bandits qui étaient tombés, 4 à l'intérieur et 1 à l'extérieur de la palissade. Le docteur Gray et moi avons couru à toute allure nous mettre à l'abri. Les survivants ne seraient pas longs à retrouver leur mousquet, et à tout moment le feu pouvait reprendre. Dans le fortin, la fumée s'était quelque peu dissipée, et nous avons vu tout de suite à quel prix nous avions payé la victoire. Hunter gisait près de sa meurtrière, assommé. Joyce était couché près de la sienne, une balle lui avait traversé la tête. Plus jamais il ne bougerait. Enfin, le chevalier soutenait le capitaine. Ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. « Le capitaine est blessé !» a dit M. Trelawney. « Ont-ils filé ?» a demandé M. Smollett. « Tous ceux qui l'ont pu. Vous pouvez en être certain. Mais il y en a 5 qui ne courront jamais plus. » « 5 !» s'est écrié le capitaine. « Voilà qui est mieux. 5 d'un côté et 3 de l'autre, cela nous laisse à 4 contre 9. C'est un meilleur rapport de force que celui du départ. Nous étions à 7 contre 19. » Alors, du moins, nous le pensions, ce qui est tout aussi dur à supporter.